18-19, le magazine.
Bonsoir, c'est Ondes Noires, une l'actualité du polar, présentée par Corinne et Jacques.
Donc, on va commencer par parler d'un livre. On devait discuter avec Jean-Claude Claes, mais pour l'instant, il n'est pas disponible. Par parler d'un livre qui est sorti cet été chez Métayer. Ça s'appelle Les Captifs du Lys Blanc et c'est de Santiago Gamboa. C'est donc paru chez Métayer. La traduction, Santiago Gamboa, c'est un Brésilien, et la traduction est donc du portugais, au Brésil on parle portugais, et de Claude Breton. Donc c'est un itinéraire bizarre de quatre personnes. Le premier, il s'appelle Nelson Chouchen Otaora, et il est aux États-Unis. C'est un écrivain médiocre qui est persuadé que son immense talent n'est pas du tout reconnu. Après un ultime avatar à l'université, il décide de partir pour Pékin, sur la trace de ses ancêtres. Il veut être célèbre, mais il va écrire son chef-d'œuvre là-bas et il va connaître la célébrité à Pékin. L'autre itinéraire, Gilbert Klaus, en Europe, philologue et sinologue allemand, il dévore Les derniers jours de Pékin, de Pierre Loti, et donc lui aussi, il s'envole pour la capitale chinoise le même jour. Tout comme d'ailleurs... Troisième itinéraire, Suarez Salcedo, journaliste radio colombien, qui est envoyé pour un reportage. Lui ne va pas chercher grand-chose, il fuit plutôt ses échecs. Quant à Régis, le prêtre, lui, il est déjà à Pékin. Et il a trouvé sa raison de vivre. Il doit protéger un manuscrit, convoité par beaucoup, en particulier par la société du Lys Blanc, qui est héritière des Boxers. Les quatre personnages, donc quatre itinéraires, vont tous finir par rechercher... ce livre, cet incunable, puisque c'est un livre rare qui n'existe plus qu'à un ou deux exemplaires et qui est très vieux. Et ils vont se croiser, se recroiser au sein d'une intrigue qui est honnêtement un petit peu emberlificotée et un petit peu échevelée. Bien malin, le lecteur qui deviendra le vainqueur de cette quête. Et la fin le laissera encore surpris par pirouette savamment par l'auteur. Ça, la fin est vraiment très 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 maligne. C'est vraiment un très beau roman. Coqué par un érudit et un amoureux de la littérature. Il y a de très, 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 très belles envolées sur la littérature. Gamboa semble avoir tout lu, tout compris, et il s'inspire des romans qu'il a aimés pour ficeler une intrigue délirante et luxuriante, emplie de clins d'œil aux écrivains qu'il admire. C'est drôle, c'est subtil, intelligent, sans être à aucun pédant ou prétentieux. C'est pétillant comme campagne et c'est un livre à déguster sans aucune modération. Voilà, ça s'appelle donc « Les captifs du Lys Blanc ». C'est chez Métayer. Il y en a pour 10 euros. C'est vraiment pas cher pour un livre de cette qualité-là. Et c'est Santiago Gamboa qui a écrit ce livre. C'est un Brésilien. Alors, en ce moment, il y en a un deuxième aussi, « Belotto ». Qui a publié chez Actes Sud un autre roman qui s'appelle Bellini et le démon. Il n'y a pas beaucoup de Brésiliens, autant les auteurs d'Amérique du Sud, il y en a beaucoup, autant les auteurs du Brésil, il y en a très très peu.
Je parle évidemment. Il y en a peu qui sont traduits en tous les cas.
Il y en a peu qui sont traduits et je parle évidemment de la planète polar parce que il y a quelques grand de la littérature blanche qui nous arrive régulièrement du Brésil. Nous avons Jean-Claude Claes en direct. Jean-Claude Claes, bonsoir.
Bonsoir.
Et désolé de vous avoir fait attendre. Donc on va embrayer tout de suite. J'ai déjà présenté la manifestation. Et je vais directement vous poser la question. Quand on vous demande votre métier, qu'est-ce que vous dites? Dessinateur, illustrateur?
Illustrateur, toujours.
Illustrateur. Donc vous avez commencé que petites années?
Voilà, nous allons dire quelques années.
Quelques années dans un magazine, puis en 77 avec une première BD. Whisky Dreams.
Oui, voilà. Voilà, bah, on a dit l'année, et donc voilà. On peut faire le décompte.
Voilà. Donc, ce qui décrit tout de suite votre univers. Hein. Est-ce que d'ailleurs, on peut dire que ces années-là, il y a une très très grande influence des romans noirs américains.
Au début, oui, dès la deuxième partie de cet album, j'ai rendu hommage au cinéma noir américain en partant du challenge de représenter les personnages en leur prêtant les traits d'acteurs de la grande époque d'Hollywood.
Et donc, très peu de temps, en quelques mois, vous avez commencé à illustrer la collection Néo. J'en parlais tout à l'heure, donc Suspense, Insolite, Mystère. Comment c'est arrivé? On est dessinateur, illustrateur, et donc vous faisiez aussi les scénarios de ces BD. Comment on arrive à Polar?
En fait, j'avais commencé par faire quelques couvertures pour les presses Pocket, mais de appartenant à la littérature générale, des choses Kessel, des choses comme ça. Je ne me souviens plus, c'était il y a pas mal d'années, comment. Je sais très bien que c'est le maquettiste qui s'appelait Marc Walter qui m'a mis en contact avec Pierre-Jean et Hélène Oswald. Mais je crois que j'avais déjà commencé à faire paraître Magnum Song à cette époque-là, et donc je m'étais peut-être déjà fait un petit nom dans l'univers du roman noir.
Et donc vous avez commencé à travailler ces couvertures par rapport au thème noir. Question d'ailleurs en préparant cette interview, est-ce qu'il y a beaucoup de séries de collections blanches qui sont aussi superbement illustrées par des dessinateurs, et finalement il y en a très très peu? C'est une caractéristique du roman noir, finalement.
Bah, c'est surtout une caractéristique du roman populaire, je crois, de faire appel à des illustrateurs.
Oui.
Alors que les auteurs plus appartenant à ce qu'on appelle la collection blanche bénéficient justement de couvertures blanches qui les nimbent d'un prestige incomparable. Et par contre, pour les romans populaires, j'aime bien ce terme de roman populaire. On fait appel à des illustrateurs parce qu'on crée une imagerie qui parle à l'imagination des gens.
Alors comment on imagine une couverture de roman noir, par exemple, prenons la collection Néo. Comment vous avez travaillé?
Eh bien, c'est très simple. Je lis toujours les manuscrits. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été disponibles, donc Hélène Oswald m'en a raconté 3 ou 4, pas plus, je pense, au téléphone. Mais généralement, on dispose du manuscrit, on lit le manuscrit, on essaie de comprendre l'univers de l'auteur, et ensuite on essaie de trouver dans l'ensemble du roman une scène qui soit à la fois représentative du roman et qui en même temps me donne du plaisir à être dessinée. En général, enfin voilà, je crois que le métier d'illustrateur, c'est un compromis entre le fait de devoir représenter l'univers d'un autre et le sien en tant qu'illustrateur.
Mmh. Et vous travaillez beaucoup avec, c'est un univers très, dans votre site ou dans d'autres commentaires, on lit très souvent le terme hyper réaliste, alors que moi j'y vois beaucoup plus d'imaginaire personnellement d'univers très très personnel. Mais c'est vrai qu'il y a un côté hyper réaliste dans la description de l'image elle-même. Vous travaillez beaucoup avec des photos.
Oui, mais c'est vrai que je n'aime pas beaucoup le terme hyper réaliste, en ce sens que je pense que mon univers est fantasmatique, en ce sens que je recrée absolument tout. Il est vrai que, enfin, d'abord j'imagine une situation, j'invente une histoire, surtout si c'est par exemple, comme c'est le cas en ce moment, l'affiche d'un festival pour lequel j'ai carte blanche. Ensuite j'essaie de trouver les personnes qui conviennent au personnage que j'ai imaginé, ensuite je les déguise et ensuite je les éclaire. Même si ça se passe la nuit, les personnages que je dessine, les photos au départ, sont éclairés par des projecteurs, ce qui fait que même que ce soit le jour ou la nuit, il y a au moins 3 ou 4 sources d'éclairage sur le personnage. Donc ça n'a rien de réaliste en fait, c'est un univers complètement recréé.
C'est un univers complètement recréé, souvent très cinématographique, justement par ce point de vue amené par les éclairages. Vous vous inspirez beaucoup des films noirs?
Oui, c'est naturellement une influence, mais le cinéma classique français m'a aussi beaucoup influencé de ce point de vue-là. Le noir et blanc est différente de la couleur, en ce sens qu'en couleur, si on peint un personnage qui a un costume vert, il va apparaître parce que le décor est rouge. En noir et blanc, il faut toujours déboucher les personnages avec un fort éclairage venant de derrière pour qu'ils apparaissent par rapport au fond. Donc oui. La technique est complètement différente entre le noir et blanc et la couleur.
Et vous avez commencé par quoi? Parce que j'ai eu du mal à trouver les toutes premières. J'avoue que je n'ai pas réussi à trouver Whiskey Dreams, que je ne connaissais pas.
Oui.
Donc, j'aimerais vraiment bien retrouver. Mais vous avez commencé par du noir et blanc ou de la couleur?
En fait, j'ai commencé par... les premières illustrations, c'était de la science-fiction. C'était pour les éditions Opta. Ils publiaient Galaxy, des choses comme ça. Mmh. Et donc, je m'intéressais aussi beaucoup à la science-fiction. Et donc, je crois que les premières illustrations que j'ai faites, c'était plutôt de la science-fiction, un petit peu de rock, du rock genre Klaus Schulze des années 70. Et c'est peu à peu, même le début de Whiskey Dreams, c'est quelque chose de très rococo, de très, très art déco. C'était l'époque du glamour rock, de David Bowie, Ziggy Stardust, des choses comme ça. Et c'était très influencé par ce courant-là. Et c'est vraiment dans la deuxième partie de l'album, à partir du moment où j'ai voulu faire cet hommage au film noir, que j'ai trouvé mon style.
Alors, on y retrouve des personnages très très forts. Il y a tout, très souvent, peut-être vais-je dire une bêtise, mais il me semble bien que très souvent, dans beaucoup d'illustrations, on retrouve une espèce de tough guy, un dur à cuire.
Oui.
Et puis une pin-up. Qui
oui. Pompe,
une pin-up, c'est pas un joli mot, en fait. Une très belle femme.
Oui, je crois pas faire. Je pense pas. Même le dur à cuire, souvent, pour des raisons pratiques, je fais mon autoportrait, donc en réalité, j'ai rien d'un dur à cuire.
Et puis, mais affublé d'un imperméable légèrement relevé.
Oui, mais c'est sûr. Disons que pour convenir à la mythologie du film noir ou du roman noir, on dessine des personnages. J'en ai dessiné beaucoup avec des trench coats et des feutres, bien sûr.
Mmh.
Quant aux filles, ce sont souvent des femmes fatales. Appelons-les plutôt comme ça, des femmes fatales.
Vous en lassez jamais?
Toute sa vie, on fait des variations sur le même thème, j'imagine.
Il me semble bien, je ne sais plus si c'est dans votre site ou dans une autre interview, vous disiez que finalement, vous avez beau porter votre attention sur la femme que vous êtes en train de dessiner, donc c'est le personnage en ce moment, votre personnage principal en ce moment, ça vous laisse quand même tout l'univers des autres femmes à portée de crayon, donc que vous avez encore beaucoup, beaucoup de choses à dire avec ces illustrations au niveau des femmes. Ce thème ne sera jamais épuisé, en fait.
Ah non, ça je pense pas que ce soit, et même j'espère pouvoir un jour, pas forcément sortir du roman noir, du cadre étroit, mais par exemple en ce moment j'ai envie de dessiner, j'essaie de dessiner et de faire publier une Salomé, c'est toujours une femme, mais sous différents aspects, appelons ça des déguisements, c'est pas vraiment le terme propre, mais disons que, ou alors c'est toujours la même femme que je poursuis à travers des
déguisements et des projecteurs, des éclairages différents, pardon. Puisque comme vous avez dit tout à l'heure, l'éclairage est très très important, aussi bien dans l'éclair obscur que dans des éclairages beaucoup plus crus. Ça, je crois que c'est une des caractéristiques de vos illustrations et de vos dessins.
Oui, je pense que le noir et blanc réclame des éclairages extrêmement contrastés, la moitié du visage est dans l'ombre, et souvent je crois qu'il faut garder, ça laisse au personnage beaucoup de mystère, le fait que le regard soit noyé dans l'ombre et qu'au fond des orbites il y ait une étincelle qui luise, ça donne un côté inquiétant au personnage. Et plus ils sont cachés par l'ombre, plus naturellement ils deviennent mystérieux. Je crois que le mystère, c'est de cacher les choses et qu'elles se révèlent le moins possible.
Avec quelques petits accessoires disséminés ça et là, un arrière-plan aussi, un décor. Vous avez parlé de l'art déco. Il y a des fresques qui sont absolument superbes, avec des arrière-plans absolument magnifiques, qui m'ont fait un petit peu penser, j'ai visité la Belgique cet été, à l'art nouveau, avec des espèces de verrières.
Oui, l'art nouveau. Enfin, je m'intéresse à l'architecture en général, donc, mais c'est vrai que, par exemple, si on dessine une femme, un arrière-plan art déco, c'est tout à fait... Mais il y a aussi des rideaux cramoisis, des candélabres, et aussi beaucoup, il faut dire la vérité, beaucoup de... L'univers urbain est aussi très bien représenté, je pense. Avec beaucoup, et puis aussi, industriel aussi. J'aime bien dessiner des usines, j'aime bien les choses usées par le temps, par...
Des lieux très obscurs quand même, des lieux du mystère, pourrait-on dire.
Oui, mais finalement, je me suis rendu compte, j'ai commencé comme il y a pas mal d'années, je dessinais beaucoup d'usines, mes histoires finissaient dans des usines, et je me rends compte que c'est un thème universellement... Beaucoup de films noirs finissent se terminent dans des usines. Mm-hmm. Je pense que ça parle... Je n'ai pas d'explication particulière sur le goût que nous pouvons avoir pour les usines désaffectées.
Oui, effectivement.
Mais à part peut-être avec des plaques d'eau par terre, bien sûr, et des jets de vapeur, ça... Enfin, ça stimule l'imagination des gens qui travaillent dans le roman noir.
À part que pour certains cinéastes, ça doit être plus facile à trouver comme lieu de tournage. Mais ça, c'est une petite parenthèse.
Oui, une usine désaffectée me convient très bien. Ensuite, je rajoute le décor, je rajoute les jets de vapeur. L'avantage du dessin, c'est qu'on a besoin d'une base. Une fois qu'on a la base, ensuite, on peut recréer l'image que l'on veut avec autant de personnes qui est nécessaire.
Alors, vous avez un site internet qui est d'une richesse absolument fantastique, aussi bien évidemment dans les illustrations, mais même dans les textes qui sont très très intéressants. Et il y a une partie qui s'appelle les fresques éducatives.
Oui.
Dites-moi un peu plus sur ces fresques éducatives.
Eh bien, à un moment de la première que j'ai faite, c'était en fait aussi sur le roman noir, c'était à Cavaillon. Ça s'appelait Mystère à Cavaillon. Et ça représentait une empoisonneuse. Qui était une assistante bibliothécaire qui se débarrassait de son patron en versant du poison dans le porto qui serait ensuite versé dans le melon. Et ça a plu à des personnes qui faisaient des conférences sur différents aspects culturels. Ensuite, j'ai fait des choses sur la médecine médico-légale, sur l'éducation, sur la connaissance. Mais c'est toute une partie de mon travail qui était très en couleur. Mmh. Et je suis pas complètement... Enfin, j'aime beaucoup ces illustrations, mais j'ai toujours eu le sentiment que plus je mettais de couleur, plus je me perdais. Mmh. Je ne devrais peut-être pas le dire. Et ce qui fait que dernièrement, je suis complètement revenu à du noir et blanc, parce que je ne pense pas être mauvais coloriste, mais je pense que je perds ma spécificité d'illustrateur ce que j'aime réellement en faisant trop de couleurs.
Alors, toujours sur votre site, vous parlez des différents types d'illustrations. Donc, vous parlez de l'imagerie populaire, vous allez jusqu'au dessin publicitaire et aux illustrations qui se retrouvent dans les revues féminines. J'ai remarqué ça. Et en parlant de ces illustrations, vous dites « Son style graphique doit nécessairement délivrer un message » ou communiquer une sensation. Vous avez toujours ça comme idée au moment où vous concevez une illustration ?
Oui.
C'est le maître mot ?
Oui, moi je pense qu'on fait des illustrations pour communiquer. Enfin voilà, je crois qu'à la base, lorsqu'on devient illustrateur et qu'on veut travailler pour le livre, c'est qu'on souhaite que son dessin soit accessible à la majorité du monde. Si on devient un peintre, on se retrouve dans des galeries, et on s'adresse à une minorité. L'avantage de la reproduction, c'est que ça permet de multiplier votre image et de la rendre accessible à tout, et même quelquefois, si c'est sous la forme d'affiches, naturellement, elle est absolument gratuite. Mmh. Je crois que c'est ça l'intérêt d'être illustrateur, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à ces images.
Mmh. Et donc, vous êtes lancé il y a quelques années dans un film d'animation qui s'appelait Les lieux du mystère.
Oui.
Est-ce que vous avez jamais eu envie, j'ai vraiment l'impression que vous êtes fan de cinéma aussi, de musique et de cinéma, je dis aussi parce que vous avez beaucoup d'autres intérêts, est-ce que vous avez jamais eu envie, comme l'a fait par exemple Enki Bilal, de vous lancer dans du, entre guillemets, vrai cinéma ?
Pas réellement, non, parce que je pense que c'est un métier.
Oui, effectivement, mais...
Et puis non, je pense que le monde... En ce qui me concerne, je trouve que le montage financier me paraît absolument insurmontable. Ce qui est intéressant, c'est de créer les choses. Dans le cinéma, bien sûr, il y a un aspect créatif, mais avant d'arriver à l'aspect créatif, qu'il y a beaucoup trop de problèmes qu'il faut régler, monter le projet financièrement. C'est des choses dont je me sens pas la force. Et en plus, c'est vrai que je pense, même si j'ai un amour absolument immodéré pour le cinéma, il faut être modeste. Je suis certainement un bon illustrateur, mais je n'ai sûrement pas la formation pour devenir metteur en scène. C'est un métier. Il faut se consacrer à une chose dans sa vie. Je pense pas qu'il faille se disperser. On peut le faire. Certains peuvent le faire. Moi, en tout cas, je n'en sens pas les capacités. Mais sans, je vous dis ça aujourd'hui, demain, si on me proposait de tourner un film avec de bons assistants et des garde-fous, je ne suis pas certain que je dirais non. Je ne suis pas certain que je refuserais cette offre.
Alors, encore une fois, votre site est richement illustré, c'est normal, c'est votre métier, mais il y a aussi vos idées très très bien écrites. Et justement, autre question, vous avez toujours illustré les mots des autres. Est-ce que vous avez jamais eu envie ou besoin, peut-être, d'écrire un livre illustré, peut-être, mais d'écrire?
J'ai toujours un petit peu écrit, puisque je faisais de la bande dessinée.
Avec les scénarios de bande dessinée?
Oui, avec les scénarios de bande dessinée. Bon, je reconnais qu'aujourd'hui, c'est vrai que je penserais plutôt à un roman illustré. Mais j'ai pas encore trouvé. Disons que la littérature, personnellement, la littérature m'intéresse, comme m'intéresse le cinéma, comme m'intéresse la musique. Mais en tant qu'écrivain, j'aime écrire des dialogues. Et comme je suis dessinateur, j'aurais tendance à mettre des images pour représenter les scènes. Mm-hmm. Je n'aurais pas envie d'écrire des scènes descriptives. Mm-hmm. Je prends du plaisir à écrire des dialogues. Pour les scènes descriptives, les scènes de décor, je préférais dessiner. Alors peut-être, mais c'est peut-être pour ça que j'ai fait de la bande dessinée. Ça me permettait à la fois de faire des dialogues et en même temps de dessiner les décors qui me plaisaient. C'était pas une mauvaise idée, la bande dessinée. Sauf qu'aujourd'hui, la bande dessinée a beaucoup changé et permet pas forcément de faire ce que j'aurais envie d'y faire.
Et justement, ce qui a aussi beaucoup changé, je pense aussi, c'est le métier d'illustrateur. Parce que d'un côté, il y a de plus en plus de collections, qu'elles soient blanches, mais en particulier des collections polars. Mais de plus en plus, on utilise des couvertures ou avec des photographies ou avec un dessin tout prêt. Donc, où en est le métier d'illustrateur actuellement?
Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est dû au fait surtout que les gens ont besoin très rapidement d'un visuel. Les dernières que j'ai faites, les dernières propositions, parlons pas de celles que j'ai faites. D'ailleurs, beaucoup de propositions, on voudrait pour le lendemain, sans avoir lu le manuscrit, que je donne un dessin finalisé, ce qui est impossible. D'ailleurs, je me sens incapable d'illustrer quelque chose que je n'ai pas lu et que je ne connais pas. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y a un problème de temps. Pour faire une illustration, il faut au moins une semaine. Et ce genre de délai est impossible à tenir aujourd'hui. Les gens veulent les choses très rapidement. Donc, et pour revenir à cette affiche que j'ai faite, là, j'ai pu disposer de pratiquement 6 mois.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Au niveau des affiches de festival, on laisse quand même en général beaucoup plus de temps.
Voilà, c'est ça. Donc, on a le temps de se reprendre, on a le temps de discuter, on a le temps de rencontrer les gens, de se mettre d'accord sur un visuel, et justement de trouver ce compromis idéal entre les désirs des gens qui me commandent une affiche et mes désirs artistiques personnels. Donc c'est beaucoup plus épanouissant. Oui, et travailler dans l'urgence, je l'ai fait à l'époque quand je faisais des publicités. Mais c'est certainement pas le meilleur de mon travail. D'une part parce que c'était des commandes extrêmement tyranniques. J'avais très peu de choses à dire dessus. J'exécutais et d'autre part les délais, je me rappelle de nuits blanches et je n'ai plus l'âge pour passer des nuits blanches. Et surtout, c'est très frustrant de voir ensuite des choses dont on n'est pas complètement satisfait. Voilà. L'affiche que je vois en ce moment sur les murs me satisfait pleinement.
Elle est vraiment très très belle.
Parfaite. Enfin, c'est pas, voilà, ça peut paraître prétentieux, mais tout est maîtrisé dessus et je la revendique complètement.
Donc,
c'est parce que j'y ai passé beaucoup de temps, parce qu'on y a beaucoup réfléchi.
Et qu'elle correspond à la fois à l'univers du polar tel qu'on va le rencontrer à Villeneuve-les-Avignon ce week-end, et qui correspond complètement à votre univers à vous.
Oui, voilà. Puis en plus, ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est un métier je le comparais un petit peu aux artistes de la Renaissance, aux artistes du Quattrocento. Je travaille pour des princes et qui me font une commande. Et là, ce qui m'intéressait aussi, c'était qu'il fallait représenter la ville de Villeneuve-les-Avignon. Et naturellement, une ville avec un tel passé historique et de tels monuments, ça, c'est une source d'inspiration formidable. Et j'ai presque pris le luxe de prendre 2 mois de repérage, de visiter la bibliothèque, l'église. Voilà, ça me permet de faire, ça m'a permis de faire des choses, d'aller jusqu'au fond de mon métier, d'apprendre un peu sur le passé historique. Bien sûr, sur le fond, on peut dire, mais enfin, c'est absurde de passer autant de temps. Je dis non. Je pense qu'on dessine bien que les choses que l'on a vues, que l'on a touchées, que l'on a comprises.
Ben, c'est un petit peu la différence, enfin, à mon avis, entre, je dirais, l'aspect technique du métier et l'aspect artistique.
Oui, voilà. Et je me souviens, à une époque, je devais dessiner des forteresses volantes, qui sont des avions de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter dans une forteresse volante qui c'était l'Institut national de la géographie faisait ses photos aériennes avec des B-17. Et il y en a un qui s'est posé sur l'aérodrome d'Avignon. Et je n'avais pas compris ce qu'était cet avion avec ses rivets, avec cette énorme masse métallique, avant de mettre la main sur les ailes, de caresser le fuselage, de rentrer dans les entrailles de cette chose. Voilà.
Oui,
sinon, si on ne connaît pas les choses, on ne les dessine pas bien.
Mm.
Il faut les toucher, il faut les sentir, il faut les comprendre.
D'accord. Et ce week-end, donc, il y a une grande exposition qui est inaugurée samedi matin.
Oui.
Qui réunit combien de vos dessins, combien de vos illustrations?
Bah, surtout, ça, c'est une exposition qui, à l'origine, on m'avait demandé de faire une exposition de moi-même. Or, moi-même, je le vois tous les jours. Ça a quelque chose d'un petit peu lassant, et j'avais pas forcément envie de me retrouver encore face à moi-même, ce qui m'a donné l'idée.
Remarquez, ça vous permet de vous auto-illustrer souvent, ce qui est un côté pratique d'après ce que vous avez dit.
Oui, bien sûr, mais là, en l'occurrence, lors d'un week-end, me retrouver encore que mes dessins, ça m'ennuie un petit peu, et donc j'ai eu l'idée de demander à 3 autres illustrateurs de venir me rejoindre, qui sont pas les moindres, puisqu'il s'agit de Maximan, de Jean-Michel Nicolet et de Loustal. Et comme ça, je me disais en même temps, tout le monde n'est pas obligé d'aimer mon travail personnel, mais si j'en présente 4 dans cette exposition, le public devrait au moins en trouver un qui corresponde à sa sensibilité. Mmh. Et en plus, c'était le moyen de présenter au public 4 façons très différentes d'envisager le roman noir.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez un petit peu travaillé ensemble sur le choix des dessins?
J'aurais vraiment laissé carte blanche pour... Je crois que c'est la première fois que nous faisons. Oui, j'en suis certain même.
Ah oui.
Je serai au courant. J'avais déjà fait une
exposition. Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Une exposition avec eux.
Vous devriez vous en rappeler, mais bon, des fois.
Et donc, non, j'aurais laissé complètement carte blanche. Ils savent très bien dans quel cadre il s'agit, celui de la Chartreuse, les salles dans lesquelles nous allons exposer. Et donc, je leur ai laissé absolument carte blanche pour présenter les dessins qui leur faisaient plaisir en fonction des autres. Voilà.
Alors, sur le site de Villeneuve-les-Avignon, il est mentionné aussi une exposition. Alors, par contre, là, je n'ai pas compris si c'était vos dessins à vous quatre ou pas.
Oui.
Un petit salon érotique, avec des dessins un peu interdits au moins de 12 ans.
Oui, dans la Chartreuse, il y a un cabinet qui est un petit peu bizarre. Qui est des styles rococo. Et sur un des murs, c'est marqué, c'est un tag qui daterait des années 70, dans lequel c'est marqué « Je t'aime gros couillon ». Et ça a donné à certains l'idée de faire quelque chose qui s'appellerait les dessous du roman noir.
Oui.
Mais en fait, je crois que ça sera quand même très très sage.
D'accord. Bon, donc tout le monde, on pourra aller visiter cette exposition en famille.
Absolument. Je crois que le roman noir fait partie du roman populaire et c'est un public généraliste. Et je pense que tout le monde doit pouvoir aller à cette exposition ou une exposition sans en repartir complètement traumatisé. Donc là, je crois que ce sera le cas. Je trouve que le travail des 3 illustrateurs qui viennent, celui de Maïs Iman, de Jean-Michel Nicolet et de Loustal, peut plaire à tout le monde. Chacun aura encore une fois, préférera peut-être un tel à un tel, mais ça fait partie du jeu. Et en tout cas, trouvera de quoi être satisfait.
Et les illustrateurs seront présents ou il n'y aura que leurs dessins?
Non, absolument. Jean-Michel Nicolet, Maïs Iman et Loustal descendent vendredi me rejoindre et nous serons présents tous les 4 pendant tout le week-end.
C'est une très bonne... très bonne nouvelle. Au niveau des illustrations, est-ce qu'il y a des développements techniques, maintenant je reviens un petit peu en dehors de l'exposition, qui fait que ça vous donne envie, on a parlé du film d'animation tout à l'heure, de faire d'autres choses, d'explorer des voies nouvelles ou...
Non, moi personnellement, je suis très, très amateur de cinéma et je me suis beaucoup intéressé au développement de la 3D, je trouve les décors que l'on fait aujourd'hui merveilleux. Je suis très fan du cinéma d'aujourd'hui, même dans ces choses les plus intellectuellement que l'on peut discuter, comme les X-Men, etc. Mais moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les effets spéciaux, j'aime beaucoup les effets numériques, et donc je retrouve mon âme d'enfant en voyant tout ça. Donc je suis très fan. En tant que spectateur, maintenant, en tant que professionnel, je crois quand même que je préfère le papier, l'encre, j'aime bien me salir les mains avec l'encre de Chine, j'aime bien l'odeur des gouaches, l'odeur des acryliques, et puis j'aime bien que le sol soit jonché de morceaux de crayon. Voilà, je garde un côté très tactile.
C'est vraiment tout un univers, en fait, qui est déjà en 3D autour de vous, en fait.
Oui, voilà, puis il y a... C'est comme les gens qui aiment les livres. On aime les livres aussi pour l'odeur qu'ils dégagent lorsqu'on les ouvre, pour
le toucher, contact toucher tactile. Les livres, c'est important.
Et voilà, et le papier à dessin, c'est la même chose. Avant de dessiner, on caresse la feuille de papier pour voir si le grain est conforme au papier dont on a l'habitude. Les poils de pinceau, il faut qu'ils aient la fermeté. Voilà. C'est très très fin en fait le métier que je pratique, comme n'importe quel métier un petit peu artisanal. Et donc on le fait avec certains outils dont on a l'habitude. Et encore une fois, pour moi l'ordinateur c'est bien, j'aime bien le voir, j'aime bien voir les images 3D. Mais personnellement toute sensualité disparaît pour moi. Mais je dis bien pour moi. Pour d'autres je ne saurais me prononcer. Mais voilà, moi je préfère rester avec mon papier, mes crayons, mes encres.
Mais comme vous disiez tout à l'heure, ça, c'est un grand avantage qui n'a rien à voir avec le côté technique du dessin, c'est que ça vous a permis de concocter un très très beau site. Et comme vous parliez tout à l'heure du fait de cette image populaire, des romans populaires, et même maintenant, il y a deux minutes, vous avez parlé d'un certain cinéma qu'on peut qualifier justement de populaire, sans aucune d'ailleurs mauvaise connotation.
Absolument,
de ma part.
C'est un mot. Les choses à leur juste place. Il y a une place pour les X-Men, pour les Quatre Fantastiques. Et il y a un cinéma pour le cinéma asiatique, les films de Hou Hsiao-hsien.
Joli, bien prononcé.
Chacun, c'est pas les mêmes jugements de valeur que l'on a sur voilà.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que donc ça vous a permis de concocter un très beau site et donc de pouvoir être encore plus présent. Vous avez parlé des musées par rapport aux illustrations, par rapport aux galeries. Ça permet d'être encore plus présent partout, l'informatique quand même.
Absolument, Internet est formidable. Je travaille beaucoup avec pour... Il vous manque un mot, vous le tapez dans un moteur de recherche, vous avez immédiatement toute la tout le monde peut venir à vous. Mais pour moi, c'est en tant que consommateur, encore une fois. J'ai fait bien sûr le site, qui est une façon de multiplier ses images, de se faire connaître. Mais le plaisir que j'ai à faire un site, voilà. Le plaisir que j'ai, c'est à dessiner.
À dessiner. Et dessiner en écoutant de la musique. Donc on va vous remercier pour d'abord votre patience et puis pour toute cette discussion très très agréable et très enrichissante. Et vous allez nous présenter, on va écouter un morceau de musique de Musica Nuda.
Oui.
Qui s'appelle, que vous avez choisi.
Oui, absolument.
Et pourquoi vous avez choisi ce morceau de musique? Vous allez me dire parce que je l'aime bien.
Et en plus, j'ai eu l'occasion de les voir. Ils sont venus dans le Gard et j'étais à deux mètres d'eux dans une cave coopérative. Ils ont joué un soir et je les connaissais naturellement déjà. Mais c'était formidable d'être si près de ces deux artistes. Et donc, être à deux mètres d'un artiste, c'est très très différent que d'être tout au fond d'une salle.
Puis ce sont deux...
La relation humaine que l'on a avec les artistes dans des petits lieux est très différente de celle que l'on a avec eux dans notre très grande salle.
Et puis, je viens de faire la relation par rapport à la discussion. Nous avons aussi eu la chance de les voir parce qu'on aime beaucoup, beaucoup ces deux personnes. Et je trouve qu'il y a une petite relation avec ce que vous avez raconté. C'est qu'eux aussi sont des artisans de la musique. Cette contrebasse et cette jeune femme qui joue merveilleusement bien avec sa voix, on sent un côté encore artisan qui fait qu'ils ont des interprétations absolument superbes de morceaux très connus et de morceaux inédits d'ailleurs. Donc ça met une espèce d'atmosphère commune entre vos illustrations et leur musique.
Oui, en plus je crois que ce sont des gens qu'il faut voir.
Oui.
Alors, écouter le morceau que nous allons entendre là et les voir sur scène, il est très surprenant de les voir sur scène, où ça devient une véritable comédie dans laquelle ils parlent, ils s'adressent au public. Ils sont tout à fait formidables sur scène.
Mmh. Ben, je crois que ça va être une bonne conclusion juste avant d'écouter ce morceau. Parce que
ça permet de parler aussi d'autre chose que du roman noir. Il n'y a pas que le roman noir dans la vie.
Il n'y a pas que le roman noir.
Il y a aussi la musique.
Tout à fait. Mais donc justement, comme vous venez de dire, il faut les voir. Mais on a parlé de votre travail d'illustrateur pendant une demi-heure, mais c'est à la radio. Donc il faut aller voir vos illustrations. Donc rendez-vous à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. C'est à partir de samedi 11h, je crois.
Voilà,
et tout le week-end. Et une petite question, est-ce que ça va continuer l'exposition après dimanche soir?
L'exposition à Villeneuve-les-Avignon, qui donc se crée à Villeneuve-les-Avignon, s'arrête dimanche soir, mais je suis même certain qu'elle sera visible à Paris au mois d'avril, quelque chose comme ça, à la Bilipo.
À la Bilipo, qui est la bibliothèque des littératures policières.
Voilà. Je ne peux pas préciser exactement le mois, mais c'est aux alentours du mois d'avril. En principe, nous nous retrouverons à nouveau tous les quatre.
On le précisera à ce moment-là, dès qu'on aura l'information.
Jean-Claude Caisse, merci beaucoup. Et place à la musique.
Et donc, Over the Rainbow par Musica Nuda.
Allora, un grande classico, direi adesso. Guardo l'orologio, sì, ce lo possiamo permettere.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops. I'll wake above the chimney tops, that's where you
Malheureusement, le temps passe vite, donc on ne pourra pas entendre ce morceau de musique en entier, donc de Musica Nuda, qu'on vous invite beaucoup à découvrir. Je pense que Jean-Claude Caisse est encore avec nous.
Oui, absolument.
Voilà, donc encore un grand merci et pour cette discussion d'avoir choisi ce morceau de musique. Vous en aviez choisi beaucoup d'autres, de plein de styles différents. Donc les prochaines fois, certainement, on se remémorera cette interview avec les autres morceaux de musique que vous aviez choisis. parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes, en particulier quelqu'un qu'on n'entend pas souvent, c'est Michael Nyman.
Oh, encore que c'est peut-être qu'on ne croit pas le connaître, mais on l'a entendu dans beaucoup de films.
Oui.
Donc on connaît pas forcément son nom, parce qu'on ne retient pas non plus, comme on ne retient pas forcément le nom des illustrateurs, on ne retient pas non plus toujours le nom des compositeurs de films. Il est bien sûr autre chose qu'un compositeur de films, comme Ennio Morricone était autre chose qu'un compositeur de films. Mais la musique de Michael Nyman est certainement dans l'oreille de beaucoup de gens, même si encore une fois, ils ne connaissent pas son nom.
Tout à fait. Encore une fois, merci, et puis donc à samedi.
À samedi.
Au revoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.
Et à
la prochaine fois.
Agora Mutant Nerd.